Oui, bonjour à tous nos auditeurs que nous sommes contents de retrouver au retour du Festival de Cannes 2018, auquel ont assisté les quatre intervenants de la présente émission. Autour de la table aujourd'hui, Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Dominique Bénard. Bonjour Dominique.
Bonjour Jean-Michel.
Marcel Bénard. Bonjour Marcel.
Bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde.
Et moi-même, Jean-Michel Zucker, qui animerait l'émission. Tous quatre, nous sommes membres de l'association Profil. Comme vous le savez, comme on peut le lire sur la première page de notre site web, Profil est une association dont l'objectif est de promouvoir les films dont la qualité artistique et humaine aide à la connaissance du monde contemporain. Elle est affiliée à l'Organisation internationale protestante du cinéma qui est Interfilm, qui, en partenariat avec son homologue catholique, Cygnis, organisait la 45e édition du prix du jury œcuménique à Cannes, jury auquel participait cette année un ancien président de Profil, Alain Le Gourvic, et jury qui a remis son prix au film de Nadine Labaki, Capharnaüm, et une mention spéciale à celui de Spike Lee, Black Klansman, film dont nous parlerons puisqu'il figure au palmarès officiel que nous allons analyser maintenant. Je dirais cependant, en préambule, que les réalisateurs français n'ont pas été récompensés cette année, que le jury des longs métrages composé de 5 femmes et 4 hommes et présidé par une femme, la belle actrice Kate Blanchett, a distingué 2 réalisatrices, Alice Rohrwacher et Nadine Labaki, que plusieurs des films du palmarès officiel font place à l'enfance abandonnée ou maltraitée, enfin, que 2 des réalisateurs en compétition, le russe Kirill Serebrennikov et l'iranien Jafar Panahi, tous deux assignés à résidence dans leur pays, n'ont pu être présents à Cannes. C'est le moment donc de passer au palmarès de la sélection officielle. La Palme d'Or est revenue au film Une affaire de famille du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, habitué du festival depuis 2001, déjà 2 fois récompensé et qui nous avait captivés avec presque tous ses films précédents, notamment Nobody Knows, Still Walking, Tel Père, Tel Fils, Après la tempête, qui approche avec émotion, profondeur et finesse le monde de la famille et de l'enfance. Au retour d'une expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils Shota recueillent dans la rue une petite fille, Yuri, qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend que ses parents la maltraitent. Les 6 membres de 3 générations de la famille recomposée d'Osamu, qui survit de petites rapines complétant ses maigres revenus, semblent cependant vivre heureux et unis, malgré leur pauvreté, jusqu'à ce qu'un incident ne fasse s'écrouler comme un château de cartes ce faux semblant qui dissimulait la marginalité de leur destinée individuelle. Interrogeant avec âpreté et tendresse les liens du sang et les liens du cœur au sein d'une société japonaise dépeinte avec ses nuances, ce film fascinant et dénué de tout sentimentalisme, à la mise en scène brillante de sobriété, est le plus abouti de son auteur. La direction d'acteur est magnifique, il n'y a pas une séquence, pas un plan de trop, et l'élégante bande-son est d'une grande subtilité. Je voudrais passer maintenant au second prix en importance, le Grand Prix, qui a été attribué au film de Black Klansman du réalisateur américain Spike Lee, qui raconte l'histoire invraisemblable, mais vraie, de Ron Stallworth, qui fut en 1978 le premier officier de police afro-américain de Colorado Springs, aux États-Unis, et parvint avec l'aide d'un collègue blanc, mais juif, Flip Zimmerman, a infiltré l'antenne locale du Ku Klux Klan, gagnant même la sympathie de David Duke, le grand sorcier national de l'organisation, comme se plaisent à l'appeler pudiquement ses membres. Dirigé contre l'Amérique blanche des WASP, les White Anglo-Saxons Protestants, et du président Trump, ce violent pamphlet est magnifiquement servi par un duo d'acteurs de haut vol, le noir David Washington et le blanc Adam Driver, qui combine avec un talent inouï le registre du thriller et celui de la comédie. Le contrepoint d'images montrant les réunions haineuses du Ku Klux Klan et notamment une cérémonie de baptême des nouvelles recrues, et celle passionnée des militants du Black Power qui exalte la beauté des Noirs pour les exhorter à la dignité, est redoutablement efficace et les plans de ces visages attentifs poursuivront longtemps le spectateur. Les péripéties de la folle tentative de ces improbables jumeaux et l'intelligence et l'humour des dialogues promettent à ce film un très large succès. À noter enfin l'impressionnante performance à 90 ans du célèbre chanteur Harry Belafonte, premier acteur noir à avoir lutté pour les droits civiques, soutien de Bernie Sanders aux récentes primaires américaines, qui interprète un vieil homme, témoin impitoyable de la persistance terrifiante de l'Amérique raciste. Je passe maintenant la parole à Marcel pour la suite de ce palmarès.
Alors, dans la suite de ce palmarès, il y a donc le prix de la mise en scène qui a été attribué à Cold War. Cold War est un film polonais réalisé par Paweł Pawlikowski, metteur en scène de 61 ans. C'est son 9e film et sa 5e fiction, après Ida notamment, en 2013. Ce film nous raconte l'histoire d'un amour impossible, inspiré par celui de ses parents. Le film leur est d'ailleurs dédié. Pendant la guerre froide, l'action se situe entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 50. Les prénoms des deux personnages, Victor et Zula, sont ceux des parents de Paweł. Victor est pianiste et aime le jazz. Zula débute dans un ensemble folklorique car elle sait chanter et danser. Elle en devient rapidement la vedette et l'ascension de Zula dans cet ensemble coïncide avec sa rencontre avec Victor. Il se laisse tenter par l'aventure de ce groupe, bien que la musique folklorique ne soit pas sa tasse de thé préférée. Le ministère de la Culture demande au groupe d'intégrer à son répertoire des chants à la gloire de Staline. Pour Victor, cela fait trop, et lorsque le groupe se produit à Berlin-Est, il passe à l'Ouest. Mais malgré sa demande auprès de Zula, elle ne le suit pas, et il se retrouve seul à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, où il peut enfin jouer du jazz. En 1954, la troupe passe à Paris. Victor et Zula arrivent à se voir quelques minutes, puis à Split, en Yougoslavie, mais sans se rencontrer vraiment. Enfin, 3 ans plus tard à Paris, Zula, mariée à un Italien, peut enfin quitter la Pologne sans être considérée comme en fuite. Mais au bout de quelques temps, c'est la rupture entre Victor et Zula. Elle rentre en Pologne, Victor la suit car il ne peut vraiment pas vivre sans elle. Il est par contre obligé de travailler dans une carrière et il se blesse à la main, fini le piano pour lui. Chacun essaie alors de rompre avec sa vie particulière pour retrouver l'autre et organiser une union célébrée entre eux seuls dans l'église en partie en ruine près de laquelle ils se sont connus. Ce très beau film, tourné en noir et blanc dans un format presque carré, raconte une histoire romantique et musicale dans laquelle la séparation, paradoxalement, augmente l'amour qui les unit. Circonstances, politique, famille, rien ne peut aller contre l'amour qui unit ces deux personnes. Quand ce film sortira, n'hésitez pas à aller le voir.
Bien. Ensuite, nous avons le prix du scénario qui a été attribué à Alice Rohrwacher, qui revient à Cannes pour son 3e long métrage, Lazzaro Felice ou Heureux comme Lazzaro. On se souvient, elle avait obtenu en 2014 le Grand Prix du Festival de Cannes pour Les Merveilles, qui déjà ne m'avait pas convaincue. Alors, de quoi s'agit-il ici? C'est l'histoire d'un paysan, Lazzaro, un peu simplet, qui vit dans une campagne très rustique et pauvre et que tout le monde exploite car il est d'une gentillesse confondante. Il devient ami avec le fils de la propriétaire des terres, qui est en rébellion contre sa mère, la marquise des Loucs, qui exploite sans scrupule les pauvres gens et qui est un escroc en jupon. À un moment, il tombe d'une très haute falaise et est tenu pour mort. Puis, comme le Lazare de la Bible, il réussit, mais 15 ans après, retrouve les siens beaucoup plus vieux, alors qu'il a gardé, lui, son aspect juvénile. Il faut le talent d'un Edgar Poe pour raconter des histoires un peu fantastiques et qui nous enchantent. Ce n'est malheureusement pas le cas de ce conte, dont on se demande ce qu'il veut dire, quel symbole il peut bien vouloir représenter. Alors la différence entre le monde ancien et notre monde actuel, on n'ose pas y croire. Le film ne manque pas de qualité technique, belle prise de vue. La critique d'ailleurs, une certaine critique a été plutôt élogieuse. Et je dois dire que cette récompense, moi, m'a tout à fait navrée parce que je n'ai pas du tout apprécié ce film.
Parlons maintenant du film « Trois visages » de Jafar Pahlavi, l'Iranien. Ce cinéaste récompensé à de multiples reprises par les festivals de Cannes, de Venise ou de Berlin pour ses films qui traitent des inégalités, de l'absence de liberté et de la condition des femmes dans la société iranienne, n'a pas pu venir à Cannes recevoir le prix du scénario pour son film puisque le régime iranien l'a condamné en 2010 à 6 ans de prison et qu'il lui est interdit de réaliser des films ou de quitter le pays pendant 20 ans. Ce prix est vraiment mérité pour un scénario subtil qui mêle fiction et réalité et parle des difficultés que rencontrent les artistes en Iran à travers sa propre expérience, bien sûr, mais aussi celle d'artistes de générations différentes. Inspiré par un fait divers, Jafar Panahi imagine la grande actrice Behnaz Jafari, très populaire, recevant par l'intermédiaire des réseaux sociaux une vidéo d'une jeune femme implorant son aide pour devenir actrice contre l'avis de sa famille et de son village, vidéo qui suggère un suicide. Aussitôt, nous partons dans la voiture du cinéaste en compagnie de l'actrice en direction de ce village pour une enquête aussi pittoresque que significative. L'accueil est chaleureux, mais Jafar Panahi montre et dénonce le côté étouffant des traditions de ce village et les difficultés que rencontrent ceux et celles qui voudraient en partir pour vivre une autre vie. Avec des moyens très modestes, Jafar Panahi filme avec beaucoup de tendresse, d'humour, de douceur et de charme les paysages montagneux de l'Iran et les habitants de ce village. Les dernières scènes du film nous font prendre une fois de plus le chemin qui mène au village et qui permet d'en sortir. Et ce chemin nous emmène alors du passé vers le futur et de l'enfermement vers la liberté. C'est un très beau film.
Alors, le prix du jury a été attribué à Capharnaüm. Nadine Labaki, après « Et maintenant on va où ?», qui a été vu à Cannes en 2011, présente un film fort et ambitieux sur toute la misère du monde. Enfance maltraitée, misère, migrants sans papier, prison. Certes, elle a abordé beaucoup de sujets. Le film nous conte les aventures d'un enfant de 12 ans, Zahin, qui, dans les premières scènes, paraît devant un juge pour enfants. Il a en effet poignardé le mari de sa sœur de 11 ans, auquel elle avait été vendue par ses parents et qui est morte parce qu'enceinte. Il veut intenter un procès à ses parents parce que, dit-il, ils l'ont mis au monde. Alors, dans son errance, il rencontre Rahil, émigrée éthiopienne, exploitée par des faiseurs de faux papiers, mère d'un bébé de 2 ans. Elle le recueille et lui demande de s'occuper de son bébé pendant son absence. Un jour, elle part à son travail et ne revient pas, car elle se fait arrêter par la police. Zahin doit alors s'occuper seule de ce petit garçon de 2 ans. C'est un très beau film, certes plus modeste que d'autres, mais sensible et plein d'humanité. Il y a par ailleurs de très très belles prises de vue. Les deux enfants sont exceptionnels à la caméra. On dirait presque que ce petit garçon de 2 ans joue. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a 500 heures de rush, ce qui n'est pas étonnant. Alors, misérabiliste, diront certains, ou tire-larme, non, non. Ce film est d'un réalisme qui nous glace le cœur et mérite le prix du jury. Le livre d'images aussi. La Palme d'Or spéciale a été attribuée au film de Godard, Le Livre d'Images. Alors, du haut de ses 87 ans, avec son sens intact de la provocation et de la déstructuration, il nous livre ce qui semble être une sorte de testament. Il est difficile de rendre compte de ce film qui est fait d'un foisonnement d'images dont certaines ne durent que quelques secondes, comme on tourne justement les pages d'un livre d'images. Foisonnement de sons également, abrupt, bégayé, de réflexions dites avec sa voix caverneuse et parfois sciemment inaudible. Ce n'est pas une fiction, il n'y a pas d'histoire, mais des extraits de ses films ou de très nombreux autres dont il repeint les plans avec des teintes vives à la manière d'un Nicolas de Staël ou d'un Matisse, c'est magnifique. Le commentaire est parfois décalé par rapport à l'image, pour nous signifier, dit-il, que les paroles ne sont pas le langage. C'est un véritable poème audiovisuel qu'il décline en plusieurs mouvements. On aura une variation sur les remakes qui sont la constance des guerres et des catastrophes passées et présentes, puis de longues séquences de défilements de trains avec des images saccadées comme dans les films muets. Également un chapitre sur l'esprit des lois, dans lequel il cite évidemment abondamment Montesquieu et dans lequel il lit de nombreux textes philosophiques. Enfin, Godard, pour terminer, se livre à une réflexion sur le monde arabe. Ignoré du reste du monde, dit-il, et dont on ne parle que lorsque les bombes sont posées. Et il termine en disant « Je suis du côté des bombes », non sans évidemment son sens de la provocation et malice. Un film brillant qui mérite certainement plusieurs visions pour en tirer tous les enseignements. Ensuite, je voudrais passer au prix d'interprétation féminine qui a été attribué à Aïka, film d'un russe, Kirill
Serebrennikov.
Serebrennikov, merci Jean-Michel, je ne l'avais pas noté. Kirill Serebrennikov. Alors c'est encore un film sur les dérives de la société russe, un film noir, mais très noir. Aïka est une jeune femme qui vient d'une ex-république soviétique. Elle essaye de s'en sortir grâce à des petits boulots. Au début du film, elle est dans une maternité car elle vient d'accoucher. Et tandis qu'on l'attend pour allaiter son enfant, elle s'enfuit en l'abandonnant. On apprendra plus tard que cet enfant est le fruit d'un viol. Elle a évidemment des saignements et des montées de lait très douloureuses. Malgré cela, elle continue de chercher du travail. Elle se fait exploiter par des logeurs qui hébergent dans des conditions indignes des non-russes. Elle est menacée par des mafieux auxquels elle a emprunté de l'argent pour s'installer comme couturière et évidemment qu'elle ne peut pas rendre. Film sans aucun espoir, car l'avenir est complètement plombé. Les mafieux lui proposent alors d'aller chercher son enfant pour le vendre. Alors je ne dévoilerai pas la fin, où elle se trouve dans une situation totalement désespérante. Et pour créer cette atmosphère terrible, le réalisateur a utilisé exclusivement des gros plans, mais à tel point qu'on ne voit quelquefois que le dos de certains personnages, sans jamais voir leur visage. C'est terrible et magnifiquement joué par Samal Yesyamova, qui rend très bien la souffrance tant physique que morale d'Aïka, un très bon film au thème désespérant. Maintenant,
le prix d'interprétation masculine qui a été attribué à Marcello Fonte dans le film Dogman de Matteo Garrone. Matteo Garrone est un réalisateur italien de 49 ans, déjà récompensé à Cannes par 2 grands prix du jury, en 2008 pour Gomorra et en 2012 pour Reality. Son film Dogman est inspiré d'un fait divers. Un toiletteur pour chiens, Marcello, vit dans une banlieue improbable, pauvre et délabrée, bien que située au bord de la mer. Pour survivre, tout le monde s'arrange et trafique plus ou moins. La police, on s'en méfie. Marcello est divorcé, sa fille est son rayon de soleil. Ils font de la plongée tous les deux lors de scènes lumineuses qui contrastent avec la grisaille quotidienne. Il s'occupe très bien des chiens qu'on lui confie, même des molosses qu'il sait amadouer et faire ronronner sous la douche lors de scènes d'anthologie. Le chien aux dreadlocks, le chien aristocrate, le caniche blanc mousseux, le pauvre chien rescapé du congélateur ont bien mérité leur dog palme. Marcello est doux, serviable, mais son petit trafic de revente de drogue lui fait rencontrer une brute épaisse qui rackette, terrorise le quartier et ne connaît comme dialogue que les coups. Et ce tendre papa va basculer dans la violence pour se venger de cette brute. Matteo Garrone a choisi Marcello Fonte, un acteur calabrais de 39 ans, quasi inconnu et abonné à de tout petits rôles il y a encore un an, pour, dit-il, sa douceur et son visage antique qui semble venir d'une Italie qui disparaît. Et Marcello Fonte, frêle petit homme, incarne le toiletteur avec une évidence et une présence extraordinaire. Il dit de son rôle « Mon personnage n'est pas violent, il est comme une fleur qui pousse dans la boue ». Il crève l'écran et son prix est totalement justifié dans un film fascinant.
Merci Dominique. Nous plongeons maintenant dans la sélection Un certain regard avec les prix qui y ont été attribués, Marcel.
Exactement Jean-Michel. Tout d'abord, le prix qui a obtenu donc le grand prix de la sélection Un certain regard, décerné par le jury présidé par Benicio del Toro. Alors il s'agit de Gräns, ou Border en anglais. Gräns est un film suédois, étrange et dérangeant, d'Ali Abbasi, iranien de naissance, arrivé en Suède à 19 ans en 2000, et aujourd'hui installé au Danemark, dont il a pris la nationalité. C'est son deuxième film. L'héroïne, Tina, est douanière dans un port de Suède, en assurant le contrôle des passagers qui débarquent. Grâce à son odorat particulièrement développé et sensible, elle détecte les sentiments cachés et les activités frauduleuses de ceux qui passent devant elle. Elle a un faciès particulier avec des arcades sourcilières proéminentes, genre néandertal, un corps épais et par certains côtés bestial. Lors d'un de ses contrôles, elle rencontre Vore, qui débarque de Finlande, encore plus épais et plus bestial qu'elle. Il lui ressemble d'ailleurs. La relation entre Tina et Vore va se développer, mais pour en connaître des détails, il faudra voir le film. Ce film est aussi une ode à la nature. Forêts, plantes, mousses, insectes, faune sauvage et domestique sont montrés à de nombreuses reprises, filmés en gros plan. Les éléments air, eau et terre sont très présents sur les images splendides qui défilent devant nos yeux ou sur la bande-son. L'eau, par exemple, se retrouve sous forme de pluie, de neige, lac, mer, rivière. Ensemble, ces éléments permettent aux vivants de s'épanouir et de se développer. Le titre « Border », la frontière, n'est pas là pour montrer le travail des douaniers, mais plutôt pour exprimer de façon synthétique que les limites entre humanité et animalité sont floues et qu'il en est de même entre migrants, réfugiés et autochtones. Enfin, entre mythes fantastiques et réalité, où est la frontière ? Le réalisateur lui-même se pose cette question. Où sont mes frontières ? La fin du film évoque la survie des espèces, animaux, insectes, différences. Doivent-elles toutes chercher à se reproduire, même si les conditions de nature et d'espace ne sont pas remplies ? Alors maintenant, je parle du film qui a obtenu le prix d'interprétation, sans préciser s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, puisqu'il s'agit du film de Girl. Le film Girl, réalisé par Lucas Daunt, réalisateur belge flamand dont c'est le premier film, raconte l'histoire vraie d'une adolescente née dans un corps de garçon et qui rêve de devenir ballerine. Lara, c'est son nom, s'est préparée à changer de sexe et l'opération qui doit assurer ce changement est prévue, mais pas tout de suite. Cette opération nécessite d'abord un traitement hormonal qui va préparer le corps tout entier à l'ablation du pénis et à la construction d'un vagin. En attendant ce moment libératoire pour elle, Lara essaie d'effacer son pénis par des scotchs qu'elle pose et enlève régulièrement. Lara vit avec son père et son petit frère. Elle n'a pas de maman. Son père et l'entourage médical sont particulièrement bienveillants et la soutiennent. Mais pour Lara, cela reste très pénible, tant physiquement que psychiquement. Le spectateur est ainsi associé à la souffrance de Lara. Il finit par comprendre que Lara va y arriver, mais peut-être pas par le parcours prévu. Ce film a déjà reçu plusieurs récompenses à Cannes. Le prix d'interprétation, je l'ai cité, la Queer Palm 2018, décernée par le jury présidé par Sylvie Piala. La Caméra d'Or 2018, décernée à Cannes par le jury présidé par Ursula Meyer. La salle a beaucoup applaudi lors de la fin de projection et a même fait une véritable standing ovation à ce film.
Je vais vous parler maintenant du film qui a obtenu le prix du scénario dans la section Un certain regard. Il s'agit de Sophia, de Meriem Ben Barek, un film d'une franco-marocaine de 33 ans, déjà connue pour ses courts-métrages, dont l'un a été sélectionné pour les Oscars 2015. Ce film, très applaudi à Cannes, a obtenu donc le prix du scénario, très justifié pour un scénario très intelligent, plein de rebondissements fort inattendus. La réalisatrice a voulu donner sans jugement un portrait du Maroc d'aujourd'hui dans un contexte économique et social précis et en évitant les clichés. Elle y a tout à fait réussi. Le film débute par l'article 490 du Code pénal marocain qui punit les personnes ayant des relations sexuelles hors mariage. Puis c'est au cours d'un repas en famille que Sophia, jeune femme de 20 ans, en plein déni de grossesse, est prise de douleur. Avec sa cousine Léna, elles partent chercher un hôpital pour un accouchement illégal, puisque hors mariage, et la naissance d'un bébé que la famille va cacher tout en se mettant en quête d'un mari et d'un père. Les personnages sont de différents milieux sociaux et très finement décrits dans leur façon de penser et d'agir. Sophia, issue de la classe moyenne, malgré sa situation, espère être une bonne épouse et une bonne mère. Léna, sa cousine franco-marocaine d'un milieu aisé, se prépare à une carrière de médecin et connaît déjà les arrangements que permettent l'argent et les relations. Omar, le futur mari d'un milieu défavorisé, est totalement prisonnier du système et de sa famille, qui voit dans le mariage un moyen de s'élever socialement. Les personnages ne sont pas du tout manichéens. Chacun pousse ses pions dans un système très contraint en fonction de ses possibilités et de ses intérêts. Et les réalisatrices montrent bien que dans ce système très hypocrite qui punit les relations sexuelles hors mariage, il y a beaucoup de perdants, qu'ils soient hommes ou femmes. Un film à voir.
Maintenant, je vais parler du film qui a obtenu le prix de la mise en scène dans le jury Un certain regard. Il s'agit de Donbass. Donbass, c'est un film ukrainien réalisé par Sergueï Loznitsa et on se rappelle que l'année précédente, le même réalisateur avait présenté à Cannes en compétition le film Une femme douce. Donbass est le 7e film de ce réalisateur. Le Donbass, c'est une région située dans l'est de l'Ukraine, passée sous le contrôle des séparatistes pro-russes qui ont donc fait sécession. Le film raconte en une douzaine d'histoires, chacune retraçant un événement réel et qui, tels des poupées russes, s'emboîtent l'une dans l'autre par l'intermédiaire d'un personnage vu dans l'une et qui se retrouve dans la suivante. La mise en scène cherche à montrer l'horreur des situations. C'est la guerre civile, avec son lot d'humiliation, de corruption, d'humour noir, de trafic divers. Bien sûr, pour nous spectateurs, il n'est pas toujours évident de savoir où sont les Ukrainiens. Et où sont les Russes? C'est pourtant simple. Les Russes se déclarent bons et compréhensifs, et les pro-ukrainiens sont des fascistes. Les scènes s'enchaînent sur un bon rythme, et Loznitsa maîtrise l'ensemble. Il n'a pas grande confiance en la nature humaine, car la corruption sévit partout, aussi bien en Ukraine qu'en Russie, et il renvoie dos à dos les belligérants. En fait, le film transpose des scènes qu'il a vues filmées par des amateurs avec téléphone portable. Il réalise donc ce que l'on appelle un docu-fiction. La limite de l'exercice risque d'être atteinte si la réalité ne dépasse pas la fiction, et cela peut se retourner contre l'auteur. Mais Loznitsa a un niveau d'exigence maximal pour que cette limite ne soit pas atteinte. Le côté flamboyant de certaines scènes fait penser à du Fellini, tant certaines valeurs sont tournées en ridicule. Par exemple, le mariage entre patriotes. Donbass s'est vu décerner le prix de la mise en scène par le jury Un certain regard. Ce prix est donc amplement mérité, car le trait est souvent gros, mais la main de Loznitsa est ferme et le propos vise à proscrire la guerre civile ou non.
Oui, eh bien maintenant, après avoir balayé ce palmarès, nous abordons une rubrique dans laquelle nous voulons souligner cependant les qualités de certains films qui, à notre avis, auraient mérité peut-être de figurer au palmarès, et nous allons vous en parler. Marcel va commencer.
Avec Leto, qui veut dire l'été. Ce film de Kirill Serebrennikov réalise ainsi son cinquième film. Il y a 2 ans, nous avons pu apprécier Ученик, le disciple, où un jeune homme pris d'une crise mystique exposait ses certitudes basées sur les écritures, lesquelles viennent contrarier souvent les décisions et prises de position des adultes. Serebrennikov vient du théâtre et utilise certaines pratiques théâtrales pour inventer un langage cinématographique différent. En particulier, il mélange les images de caméscope déformées et tremblantes avec celles d'animation graphique. Leto évoque le mouvement du rock underground de la fin de l'ère soviétique qui fut un des signes avant-coureurs de la chute de l'URSS. Au début des années 80, 2 groupes de rock menés par Viktor Tsoï et Mike Nomenko se partageaient les faveurs de la jeunesse des bords de la Neva à Leningrad. Pour Serebrennikov, l'aîné Mike fait tout pour aider le cadet à se hisser au sommet. Et pourtant, l'épouse de Mike n'est pas insensible au charme du cadet Victor. Mais chacun cherche à ménager l'autre malgré les blessures qu'ils s'infligent l'un l'autre. Les différentes péripéties de la vie s'intercalent avec des intermèdes musicaux très bien filmés, montrant la surveillance qu'opèrent les adeptes du régime soviétique. Les musiques sont des adaptations russes, réussies, avec des succès occidentaux dans la mouvance New Wave. La pellicule noire et blanche se pare de graffitis colorés qui viennent agrémenter l'effet visuel de la scène. Le résultat est à l'image des changements attendus pour le pays, colorés et entraînants pour la jeunesse, même s'ils ne sont pas aussi percutants qu'espérés. Ce film, enlevé et apprécié, n'a pas convaincu le jury pour obtenir une récompense. C'est dommage pour le soutien à apporter à un homme assigné à résidence dans son logement de Moscou, comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure. Serebrennikov, que des demandes répétées des organisations du festival n'ont pas pu aider à quitter Moscou pour quelques heures ou quelques journées de festival. Heureusement, la manifestation de l'équipe du film lors de la montée des marches a pu être entendue et vue dans le monde entier.
Alors, personnellement, je voudrais vous parler de 2 films que j'estime oubliés du palmarès. D'abord, Burning, du coréen Lee Chang-dong. Ce réalisateur est bien connu de Cannes, car il a été sélectionné 3 fois, notamment en 2010, où son film Poetry avait obtenu le prix d'interprétation féminine et celui du scénario. Son film présenté cette année, Burning, ne démérite pas. Lors d'une livraison, Yong-soo, un jeune coursier d'origine paysanne, tombe par hasard sur Aimi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Ils passent la nuit ensemble. Elle lui demande de s'occuper de son chat pendant un voyage qu'elle va faire en Afrique. Il tombe amoureux d'elle. Et à son retour, Aimi lui présente Ben, un homme plein de charme et de désinvolture assez mystérieux qu'elle a rencontré au cours de son voyage. Il a un magnifique appartement, roule en Porsche et ne semble pas avoir d'activité particulière. Un jour, Ben relève à Yong-soo un étrange passe-temps. Alors, ce film est adapté de l'œuvre du grand écrivain japonais Haruki Murakami, Les Granges Brûlées. Et on retrouve très très bien l'atmosphère de cet auteur, où la vérité avance masquée et ne se dévoile qu'en toute fin. Tout est séduisant dans ce film. Une mise en scène sobre, minimaliste, la beauté des plans et surtout le mystère qui entoure chacun de ces personnages, chez lesquels on sent un malaise, mais lequel ? Le chat existe-t-il vraiment ? Yong-soo n'a jamais réussi à le voir. Le puits dans lequel Aimi prétend être tombée petite, existe-t-il ? D'où viennent les moyens de Ben, sorte de Gatsby, comme il en existe beaucoup en Corée, dit un des personnages ? Où est passé Aimi ? La seconde partie du film est plus mouvementée. On ne comprend pas très bien ce que cherche Yong-soo en pistant Ben jusqu'à la scène finale qui nous laisse imaginer toutes les motivations possibles de Yong-soo. Un très beau film. Un autre film également asiatique dont je voudrais vous parler, c'est Les Éternels de Yang Jianke. C'est un cinéaste qui est habitué à Cannes et il avait obtenu, on s'en souvient, en 2013, le prix du scénario pour A Touch of Sin. Quel est le propos ? En 2001, la jeune Xiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Xiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu en l'air. Elle est condamnée à 5 ans de prison. À sa sortie, Bean a refait sa vie. 10 ans plus tard, on la retrouve à Datong, où, fidèle aux règles de la pègre, elle a remonté un tripot de jeux. Bean réapparaît, infirme et diminué. Alors, ce cinéaste nous livre une fois encore une analyse de l'évolution de la société chinoise et de la destruction des valeurs traditionnelles qui engendrent le mal-être et la dérive de nombreux citoyens. Le talent du réalisateur est au rendez-vous. On retrouve l'esthétisme de ses magnifiques plans, son sens de l'image et des couleurs, le soin apporté à la lumière. C'est un film poétique et captivant qui, malheureusement, a un défaut majeur, qui est sa longueur, la longueur d'une dernière partie qui s'étire beaucoup trop. Mais un bon film qui aurait mérité une récompense.
Un autre oublié de ce palmarès est Nuri Bilge Ceylan, probablement le plus grand réalisateur turc vivant, qui nous a donné en très peu de films, entre autres Uzak, Les Climats, Les Trois Singes, Winter Sleep, Palme d'Or en 2014, un cinéma d'auteur très personnel, intime et littéraire, mais dont la temporalité peut déconcerter. C'est bien le cas de ce 8e long-métrage, Le Poirier Sauvage, dont la mélancolique beauté est distillée sur plus de 3 heures et n'a pas su retenir le jury. C'est l'histoire de Sinan, un jeune homme solitaire, fou de littérature, qui, après ses études, revient dans sa petite ville avec une seule idée en tête, voire publier l'essai qui donne son titre au film. Il cherchera maladroitement l'appui d'un écrivain connu qu'il provoquera, se confrontera à un père instituteur inconsistant qui perd son salaire aux courses et discutera longuement avec les copains de sa jeunesse de création littéraire et artistique, d'amour, de philosophie, de religion. Aux antipodes d'un film d'action, cette œuvre intimiste et tchékovienne au charme pénétrant prend résolument, dans sa deuxième moitié la plus forte, le chemin d'un adoucissement de sa relation au père qui signe sans doute de façon émouvante pour le jeune homme l'éclosion de sa maturité. À noter aussi que le photographe de formation qu'est Ceylan nous propose à plusieurs reprises dans le film, dans des compositions plastiques admirables en plan large, les bigarrures colorées des façades des maisons et les splendides paysages neigeux d'Anatolie. Alors je crois qu'on est un petit peu amené maintenant à avancer avec les films de la sélection officielle hors compétition qui sont souvent d'une singularité attachante, et parmi eux nous avons remarqué Le Grand Bain.
Effectivement, donc Le Grand Bain, peut-être le film français qui aurait pu, s'il avait été dans la sélection, être couronné quelque part. Gilles Lellouche a réalisé ce film, c'est son 3e mais le 1er en solo. Il décrit la préparation d'une bande de dépressifs, losers et autres ratés qui, pour se remettre en selle, s'inscrivent à des cours de natation synchronisés. Les acteurs qui les incarnent sont Amalric, Canet, Anglade, Poulvord et Catherine, ainsi que quelques autres moins connus. Ils sont entraînés par Delphine, incarnée par Virginie Efira, elle aussi est secondée d'ailleurs par Amanda, jouée par Leila Bekti, sorte d'adjudant-chef handicapé en fauteuil roulant, particulièrement énergique et drôle. Elles annoncent que l'objectif est de se présenter au prochain championnat du monde qui aura lieu en Norvège. Leurs problèmes individuels ne disparaissent pas, mais cette activité sportive nouvelle, puisque d'habitude la natation synchronisée est une discipline féminine, leur permet de se surpasser et donc de réussir. Ce film est vraiment très bien enlevé par la brochette d'acteurs, sans complexe, ils sont tout le temps en maillot de bain, ils forment une équipe pleine de panache et jamais vulgaire. L'aventure est touchante et drôle, bref, on passe un très bon moment.
Merci. Ce sont maintenant 2 documentaires inscrits avec talent dans les luttes contemporaines qui nous ont retenus dans ces sections hors compétition. D'une part, La Traversée, film du réalisateur Romain Goupil, qui reçut, vous vous rappelez, en son temps, le César de la première œuvre pour Mourir à 30 ans. C'est un documentaire qui se veut le tour et les détours en France de 2 vieux enfants de 68, 2 complices, Romain Goupil lui-même, et Danny Cohn-Bendit, qui 50 ans après mai 68, décide d'explorer, sur 5000 kilomètres, les territoires les plus divers de la République pour observer, écouter, débattre et découvrir l'état du pays, ses crises et ses espérances, ses héros ordinaires, ouvriers, paysans, employés, sportifs. Ce road movie bon enfant un peu ringard soulève néanmoins les questions importantes du présent et interpelle les citoyens qui, quelquefois, sommeillent en nous. D'autre part, nous avons vu Libre, qui est un autre documentaire passionnant du réalisateur Michel Toesca, au cours duquel celui-ci suit Cédric Héroux, un agriculteur de la vallée de la Roya, dans le sud-est de la France, qui accueille dans sa ferme des migrants venus d'Afrique. Cette vallée est frontalière avec l'Italie. Cédric Héroux cultive des oliviers et élève des poules. Mais le jour où il croise des réfugiés, il décide, avec d'autres habitants de la vallée, de les aider, comme le font nombre d'ONG, dont la CIMAD, à déposer leur demande d'asile. Ce faisant, il est considéré rapidement comme hors la loi. Et Michel Toesca, ami de longue date et habitant lui aussi de la Roya, l'a suivi durant 3 ans. Témoin concerné et sensibilisé, il a participé et filmé cette résistance citoyenne qui conduit actuellement cet homme libre et fraternel au seuil de la prison pour délit d'humanité. La projection de ce film en présence de Cédric Héroux a suscité à Cannes une interminable ovation debout. Je crois, Marcel, que tu as aussi un mot à nous dire sur les chatouilles qui te semblent...
Je vais passer la parole à Dominique qui, je crois, a
c'est
plus d'informations sur le
sujet. Pardon, c'est Dominique qui l'a préparé.
Oui, c'est Dominique qui a préparé.
Bien. Les chatouilles est l'adaptation au cinéma d'un spectacle de théâtre et de danse qui a eu beaucoup de succès, La danse de la colère, écrit par la chorégraphe et comédienne Andrea Bescon et son mari Éric Métayer. Au départ, c'est la propre histoire d'Andrea Bescon, abusée dans sa jeunesse par un ami de la famille qui lui imposait des séances de chatouille, disait-il, et d'abus sexuels répétés en fait. Petite fille, elle n'a jamais osé en parler à sa mère et sa vie d'adulte est une fuite en avant dans les addictions jusqu'à ce qu'elle se fasse aider et rencontre un homme amoureux et respectueux qui lui donnera la force de porter plainte. Le sujet est difficile et les scènes rassemblant la petite fille et son bourreau sont traitées avec beaucoup de retenue et de pudeur. La mise en scène qui mêle la danse, le jeu, le passé, le présent, la réalité, les rêves apporte une sorte de légèreté et de fantaisie au film remarquablement interprété. Un film fort, un film nécessaire.
Merci. Dans les sections parallèles, pour terminer, que sont la quinzaine des réalisateurs dont je souligne la reprise des films à Paris du 24 mai au 3 juin au Forum des Images et la semaine de la critique qui sont repris du 30 mai au 6 juin à la Cinémathèque française. De nombreux films de qualité ont été primés, parmi lesquels je citerai seulement pour la quinzaine En Liberté, une comédie de Pierre Salvadori, et pour la semaine Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmitt. Cette émission va maintenant se terminer et je voudrais d'une part remercier mes 3 camarades qui l'ont fait vivre et Boris qui a permis son enregistrement et indiquer aussi aux auditeurs qu'ils pourront retrouver sur le site du jury œcuménique cannes.juryœcuménique.org les 109 articles en ligne à propos de 69 films vus au Festival de Cannes et commentés par l'équipe des rédacteurs satellites de ce jury œcuménique. Merci à tous.